L'ours et la carotte. Une émission d'environnement proposée par Nicolas Saint-Martin et Claire Cayrouga. Arnaud Cochin, bonjour.
Bonjour Claire.
On va parler avec toi aujourd'hui d'écologie pratique que tu diffuses au sein de l'association Savoir de Terroir, donc basée en Ardèche. Tu peux nous présenter déjà un peu l'association ?
Oui, tout à fait. Donc, je suis un des 7 administrateurs de l'association Savoir de Terroir, qui existe donc depuis 1995. Les objectifs de l'association sont l'inventaire, la sauvegarde, la valorisation et la transmission du patrimoine des terroirs.
Alors, qu'est-ce que c'est que le patrimoine des terroirs ? Ça recoupe à la fois le patrimoine, on peut dire, naturel, architectural, savoir-faire, c'est ça ?
Oui, tout à fait. On a, je dirais, deux grands axes au sein de l'association, deux pôles, on va dire. Un pôle plus orienté végétal, donc sur tout ce qui est sauvegarde et diffusion du patrimoine végétal, donc les variétés traditionnelles de plantes potagères, variétés fruitières, etc. Et un pôle orienté plus sur la transmission des savoir-faire. Donc, par exemple, si on prend un cas typique en Ardèche, c'est la construction, par exemple, en pierre sèche. On a beaucoup de terrasses. Ardèche est très vallonnée. Donc, on a beaucoup de terrasses qui sont montées en pierre sèche. Donc, il y a tout un savoir-faire de montage de murs. Donc, voilà, ça fait partie des savoir-faire qu'on essaye de diffuser, de faire connaître.
Les murs en pierre sèche, en fait, c'est quelque chose de très spécifique à des zones un peu montagneuses comme l'Ardèche.
Oui, tout à fait, mais voilà, il a bien fallu de toute façon rendre des zones non cultivables cultivables à une certaine époque, hein, même si ça a tendance à s'inverser. Mais voilà, donc pour pouvoir cultiver des zones de moyenne montagne, bien, il a bien fallu faire des zones à peu près plates. Donc d'où l'idée de remonter des murs avec des pierres pour faire des zones de culture, quoi, pour une agriculture qui était essentiellement vivrière, hein, à une certaine époque.
Alors vivrière, ça veut dire les gens finalement cultivaient pour se nourrir directement eux-mêmes.
Oui, la clientèle, je dirais, des maraîchers de l'époque était très limitée, hein. C'était avant tout pour nourrir la famille, de toute façon, chacun avait son bout de terre, cultivait ses variétés et était en alimentation quasiment autonome, hein. Au moins sur un hameau, sur un village, avec des échanges, etc.
Alors quand on se promène en Ardèche, on voit encore ces terrasses, on voit encore ces murs en pierre sèche, mais de plus en plus, tu l'évoquais juste tout à l'heure, on voit que ça finit par s'enfricher, on voit des petits arbustes qui apparaissent, voire parfois des arbres, et ces espaces sont de plus en plus délaissés. Alors vous, à l'association Savoir de Terroir, vous aidez les gens à réhabiliter ces murs en pierre sèche pour essayer de remettre des zones en culture ?
Alors, à l'association, donc nous, ce qu'on a pu faire, c'est surtout des stages, en fait, hein, sur une ou deux journées, donc soit par exemple sur la pierre sèche, effectivement, pour former les gens notamment au remontage de murs écroulés, parce que c'est vrai que, alors notamment en Ardèche, il y a une forte présence de châtaigneraies, hein, parce que la châtaigne est un petit peu emblématique de l'Ardèche, et du coup, des châtaigneraies excessivement compliquées à conserver, à rendre productives, hein, parce que maintenant, bah, si on ne peut plus passer avec un tracteur, ça intéresse beaucoup moins l'agriculteur. Donc du coup, depuis les années 60, il y a effectivement beaucoup de terrasses qui ne sont plus cultivées, qui ne sont plus entretenues et du coup qui ont forcément tendance à s'écrouler parce qu'un mur en pierre sèche, ça s'entretient quand même. Donc du coup, voilà, nous on forme les gens pour qu'ils puissent être autonomes sur ce remontage et sur cet entretien de mur. On a pu faire aussi donc des journées de formation autour de la vannerie, voilà, avec un vannier professionnel.
Alors la vannerie, c'est quoi ?
La vannerie, c'est du tissage avec du matériel végétal. Donc par exemple, si je prends des paniers en osier, par exemple, voilà, la réalisation de paniers. Après, ça peut être une vannerie plus au jardin, avec de la réalisation de petites barrières, de clos. Donc voilà, la vannerie avec du saule, avec du châtaignier, avec des ressources généralement locales.
Lors de ces formations que vous organisez, les gens, ils apprennent à identifier autour de chez eux, par exemple, les espèces, les essences, les arbres ou les arbustes qu'ils peuvent utiliser et comment faire pour les utiliser ?
Oui, bien sûr, également, on essaie de prendre les choses depuis le début, hein, donc identifier les matériaux. Alors ça marche aussi pour la vannerie, mais pour tous les autres exemples, hein, la pierre sèche, effectivement, bah, identifier les pierres qu'on peut avoir autour de chez soi, pour notamment, je pense, à se soigner par les plantes également. également, on fait des ateliers de transformation de plantes à usage médicinal. Donc pareil, hein, identifier ce qu'on peut avoir près de chez soi et puis apprendre à les transformer, à les travailler pour derrière, voilà, être capable d'utiliser les ressources locales et être autonome là-dessus.
Alors les plantes, oui, c'est quelque chose sur lequel vous travaillez aussi beaucoup. Et vous avez à Mirabel, donc en Ardèche, un jardin des savoirs qui est en perpétuel mouvement, on va dire. Et donc là, vous avez des plantes médicinales, mais aussi des plantes aromatiques, des plantes tinctoriales et des plantes culinaires. Alors, tu peux nous présenter un peu toutes ces variétés de plantes et à quoi ça sert ?
Quand on parle de savoir-faire au niveau des plantes, on a tendance à les classer par usage, hein. Donc, par exemple, les plantes médicinales, pour se soigner. Les plantes tinctoriales, donc, c'est les plantes qui servent à teindre. Donc des vêtements, par exemple. Donc voilà, il y a toutes ces familles de plantes qui ont eu à un moment vocation à servir, je dirais. Et ces savoir-faire, c'est toujours pareil, hein, mais effectivement, on a eu tendance à s'en écarter à partir du milieu du XXe siècle, avec l'arrivée massive de l'industrie, des grandes surfaces, etc. Et tout ça, c'est un petit peu perdu. Et on a vraiment vocation à ce que c'est vraiment le fondamental, je dirais. C'est pour ça que j'insiste dessus, vocation. Est-ce que les gens réapprennent à regarder autour d'eux et à voir quel usage ils peuvent faire de cette nature qui est absolument généreuse, quoi. Voilà. Donc après, c'est vrai qu'on a eu un jardin un petit peu vitrine autour de ces plantes. Voilà, après, l'association est en perpétuel mouvement comme la nature. Et du coup, voilà, on est parti un petit peu sur autre chose là, avec un travail davantage sur tout ce qui est plantes potagères, dont on va parler sûrement un petit peu plus tard.
Pensa que eu sou caboclo todo boboca, tipo de mico, cabeça oca, raquítico, típico jacatato. Número zero, zé, à esquerda, pateta, patético, lesma, lerda, automato, pato, panacajaco. Penso, dispenso a mula da sua ótica. Ora vá me lamber, tradução intersemiótica. Se segura, milorde, aí que o mulato baiano. E esmoca-se todo na estética do arrastão. Se segura, milorde, aí que o mulato baiano. E esmoca-se todo na estética do arrastão.
Castete, castete. Castete, castete. Castete, castete. Castete, castete. Castética do plágio.
Help sua suna.
Castete, castete. Castete, castetu, castete, castetu, castete, castetu, castetica do Pajuí.
Pensa que eu sou um androide cantando doido, algum amulengo, molenga, mongo, mero mameluco da cucalele. Trapo de tripa da tribo dos pele osso, fiabo de carne, farrapo grosso da trupe da reles e rala ralé. Penso, dispenso a mula da sua ótica. Ora vá me lamber, tradução intersemiótica. Se segura, milorde, aí que o mulato baiano. E esmoca-se todo na estética do arrastão. Se segura, milorde, aí que o mulato baiano. Esmoca-se todo na estética do arrastão.
Castete, castetu. Castete, castetu. Castete, castetu. Castete, castetu. Castética do plágio.
Help, tinhorão.
Castete, castetu. Castete, castetu. Castete, castetu. Castete, castetu. Castética.
Donc l'association Savoir de Terroir, au début des années 2000, a créé une banque de semences qui s'appelle Balzelli, banque alternative de semences libérées.
Oh là là, ça a l'air intéressant ça.
Donc en fait, l'objectif de cette banque de semences, c'est de sauvegarder et de diffuser des variétés traditionnelles de plantes potagères. Alors, pour expliquer ça de façon assez concrète, on va reprendre un petit peu l'historique de l'agriculture. Hein. Donc l'agriculture, au départ, voilà, ce sont des paysans qui sèment, qui récoltent des graines et qui ressèment leurs graines de l'année d'avant pour cultiver l'année d'après.
Pas besoin d'aller au magasin acheter des semences et toutes sortes de choses pour mettre dans la terre, et on utilise ce qu'il y a localement.
Voilà, tout à fait. Pas besoin non plus de grosses industries semencières, etc. Donc ce qui s'est passé, malheureusement, justement, c'est que à partir des années 1950, l'industrie semencière a commencé à créer ce qu'on appelle des variétés hybrides F1.
Censées produire plus.
Alors, censées produire plus, censées être plus résistantes aux maladies, et surtout, gros intérêt pour l'industrie semencière, être obligée de racheter des semences chaque année, car elles ne sont pas reproductibles, donc ça ne sert à rien d'essayer de récupérer de la semence sur ces plantes-là, ça ne marchera pas l'année d'après. Donc forcément, on voit bien l'intérêt d'une industrie, hein, dont l'objectif quand même est de faire du profit, donc du coup, revendre chaque année de la semence, c'est tout à fait intéressant.
Alors pour les paysans, c'est là où ça pose un problème, c'est qu'ils ne sont plus libres, d'où l'appellation la banque alternative de semences libérées. les paysans ne sont plus libres de reproduire leurs semences aujourd'hui. C'est un peu ce dont on a entendu parler avec certains combats comme Cocopelli, qui est une association qui travaille sur ces questions-là, Semences Paysannes aussi. Et vous, justement, par cette banque alternative, c'est ça que vous cherchez à faire, c'est que les paysans et puis les jardiniers citoyens puissent reproduire leurs propres plantes.
Tout à fait. Alors, la banque de semences était une première étape, hein, mais effectivement, le gros souci là-dessus, c'est que d'une, il y a beaucoup de variétés traditionnelles de plantes qui se perdent, parce que voilà, l'hybride F1 est de plus en plus présente. L'hybride F1 est de plus en plus présente parce que, notamment, en parallèle de ces industriels, il y a eu aussi, dans les années 50, la création d'un catalogue officiel des variétés potagères, qui dit aux paysans ce qu'il a le droit de cultiver et ce qu'il n'a pas le droit de cultiver. C'est-à-dire qu'il y a des variétés dont, théoriquement, les paysans n'ont pas forcément le droit de refaire de la semence et de ressemer.
Alors, qu'est-ce que vous faites donc à cette banque alternative des semences libérées? C'est une sorte de conservatoire de semences, mais où il y a des échanges entre les gens?
On a pu faire effectivement des parrainages avec les jardiniers amateurs. Après, voilà, je disais tout à l'heure que cette banque de semences était une première étape, parce que depuis, donc, on a lancé un projet, mais qui est plus tourné vers les professionnels, justement vers les maraîchers, vers les paysans, qui s'appelle le projet Paysans et Semences, où là, l'objectif est double, c'est d'une part de réintégrer dans le circuit de production et de commercialisation des variétés traditionnelles, locales dans la majorité des cas, et également de former les paysans, de les reformer, je dirais, à la production de semences. Hein, parce qu'il faut savoir que voilà, produire ces semences, ça peut paraître tout simple de récupérer des graines, mais en fait, c'est vraiment un métier à part entière, c'est vraiment un savoir-faire. Donc du coup, voilà, on essaye de former ces maraîchers à la production de semences également, pour qu'ils puissent gagner en autonomie aussi sur leur activité, sur leur ferme.
Ça sert pour les paysans et pour le jardinier citoyen d'avoir des semences, des variétés locales et traditionnelles.
Alors effectivement, c'est le nerf de la guerre. Hein. On pourrait se dire, bah, après tout, hybride F1 pourrait très bien convenir, et soit on reste là-dessus, et voilà. Sauf qu'effectivement, sur l'hybride F1, donc il y a le souci de la reproductibilité, et il y a également le souci d'uniformisation des cultures. C'est-à-dire que voilà, vous allez voir un paysan à Dunkerque et un paysan à Nice, hein, je fais un grand écart exprès, il y a de grandes chances qu'ils cultivent la même variété de tomates. C'est complètement illogique, parce que les terroirs sont complètement différents. Donc pendant des centaines et des centaines d'années, il y a quand même eu des paysans qui ont ressemé chaque année leurs variétés et qui les ont donc adaptées à leur terroir. Chaque terroir est vraiment spécifique. Et du coup, ces variétés locales, eh ben, elles sont locales. Il y a bien une raison, c'est parce qu'elles sont très bien adaptées au territoire. Et que du coup, voilà, on est sur une productivité intéressante, on est sur des besoins en eau limités, par exemple. En Ardèche, on a souvent des soucis d'eau, été quand même, il ne pleut pas souvent. Donc, c'est des plantes qui ont des besoins en eau plus faibles, par exemple.
Par rapport à cette banque alternative des semences, vous avez des conservatoires in situ, c'est-à-dire des espaces où vous continuez de cultiver des vieilles variétés de plantes ?
Oui, tout à fait. Au niveau des plantes potagères, notamment, une semence, c'est pas éternel, ça a une durée de vie, donc il est important de pouvoir renouveler cela. Et puis, on a des conservatoires, effectivement. Alors, on a un conservatoire d'oliviers, par exemple, avec des variétés essentiellement ardéchoises. On a un conservatoire de pommes de terre. Alors, c'est celui qui nous demande peut-être le plus de boulot, parce que les pommes de terre, c'est assez compliqué. On ne travaille pas sur la semence, on travaille sur les tubercules. Donc il faut obligatoirement les replanter d'une année sur l'autre et réussir à les conserver l'hiver, donc beaucoup de travail. Et du coup, on a environ 160 variétés de pommes de terre en conservation, hein, donc exclusivement des variétés anciennes.
Comme lesquelles, tu peux nous donner des noms un peu spécifiques ?
Par exemple, la vieille de Lyon, je pense, la quenelle de Haute-Savoie, des choses comme ça. Voilà.
Et alors, elles ont un goût particulier, toutes ces pommes de terre ? Tu les as goûtées déjà ? Parce que si vous les conservez, vous ne les goûtez peut-être pas.
Alors, malheureusement, on ne peut pas toutes forcément les goûter, parce qu'il y en a qui sont... qui peinent quand même un petit peu à être cultivé, hein, parce que c'est pas évident de gérer ces 160 variétés. Donc du coup, voilà, quand on a une production nécessaire, effectivement, on essaye bien entendu de les goûter. Chose qu'on a fait en début d'année, là, on a organisé une séance de dégustation de pommes de terre en frites et au four.
C'était le quiz, il fallait deviner.
Donc voilà, donc on était une quinzaine de personnes avec un petit questionnaire pour noter. Et voilà, parce que ce qui est intéressant aussi de conserver pour conserver, c'est bien, mais c'est somme toute limité. Il faut voir aussi quel intérêt ont ces variétés. Donc de les cultiver déjà, on a une petite idée des intérêts qu'elles peuvent avoir. Et puis de les goûter aussi, parce qu'il y a des choses qui sont extrêmement différentes en saveur. Et donc ça nous intéresse d'autant plus qu'avec le projet Paysans et Semences, du coup, ces variétés qui ressortent du lot, je dirais, quand on les goûte, ça peut nous permettre de les intégrer justement au projet Paysans et Semences, de les remettre en production chez un maraîcher et pourquoi pas de les retrouver dans le commerce dans quelques années. Donc sur les conservatoires, conservatoire d'olivier, conservatoire de pommes de terre. On a un conservatoire de saules en partenariat avec Vincent Delbecq a dit. Donc le saule, c'est ce qui sert à la... Un conservatoire de figuier également en partenariat avec Deméry. Et on a également cette année récupéré donc un terrain agricole à côté d'Aubenas. On appelle le terrain des îles, voilà, parce que c'est entouré par l'Ardèche et des canaux déviés de l'Ardèche, donc un site très sympa. Donc un terrain d'un hectare, en fait, qui va nous servir effectivement de zone d'expérimentation pour la banque de semences, où on va pouvoir renouveler beaucoup plus facilement nos collections et renouveler à plus grande échelle, pouvoir continuer les tests de dégustation et voir pour la réinsertion dans le projet Paysans et Semences.
Banane arrive chez Reine-Courge. Nous organisons comme chaque année la traditionnelle fête de l'été et je vous apporte des invitations de la part de Sa Majesté Citron. Officiellement, vous êtes conviés comme tous les ans. Nous allons chanter et nous espérons qu'il y aura là toutes sortes de légumes qui soient concombre et fenouil, potiron, citrouille, piment, brocoli, radis, radis gris, fèves et haricots, tomates, poireaux, patates, carottes, oignons, échalotes, navets, chou-fleur, petits pois, endives, asperges, aubergines, artichauts, courgettes, salades, etc. Bref, tous les légumes, même les inconnus. Bref, tous les légumes, même les inconnus. Boire à la cervoise de sèche-fille, ça donne la patate pour danser la gigue. Les musiciens jouent pendant toute la nuit des refrains connus. Salade de fruits, jolie, jolie. Et tous les standards du bal potager, il y aura les jeunes et les plus âgés. Et nous espérons que pour cette année, les légumes viendront fêter l'été. Concombre et fenouil, potiron, citrouille, piment, brocoli, radis, radis gris, fèves et haricots, tomates, poireaux, patates, carottes, oignons, échalotes, navets, chou-fleur, petits pois, olives, asperges, aubergines, artichauts, courgettes, salades, etc. Bref, tous les légumes, même les inconnus. Bref, tous les légumes, même les inconnus. Je suis flatté de votre invitation. Malheureusement, comme vous le savez, l'été est pour nous la morte saison. Je me vois obligé de refuser. Non pas que l'idée en soi ne m'arrête, mais jamais mon peuple ne fait la fête. Hors saison du froid, du vent, de la neige, à ses yeux l'été est un sacrilège. Pommes, poires et prunes, abricots, raisins, ananas, fraises, oranges, cerises, noisettes, kaki et noix de coco, fruits de la passion, goyave, melon, pamplemousse, banane, mandarine, clémentine, papaye, cassis, groseille, nectarine et mangue, etc. Bref, tous les fruits, vous gigueraient sans nous. Je vous remercie d'avoir pensé à nous. Bref, tous les fruits, vous gigueraient sans nous. Je vous remercie d'avoir pensé à nous.
Par rapport au patrimoine des terroirs que vous préservez, que vous transmettez à l'association Savoir de Terroir, vous vous intéressez aux techniques ancestrales et artisanales en les faisant vivre. Donc il y a quand même beaucoup de domaines sur lesquels vous agissez. Il y a le patrimoine architectural, naturel, les vieux métiers, l'ethnobotanique, arboriculture, l'empélographie. Donc est-ce que tu peux nous expliquer comment on peut relier tout ça, nature et culture finalement?
Donc, comment on relie un petit peu tout ça? Alors, c'est donc l'empélographie, pour préciser, donc c'est tout ce qui concerne l'étude des vignes, voilà. L'étude des cépages, la description des cépages, etc. Voilà.
Et l'ethnobotanique, c'est quoi?
Alors, l'ethnobotanique, c'est... donc, la botanique, c'est l'étude vraiment scientifique, je dirais, des plantes. Avec le mélange de l'ethnologie. Donc, en fait, c'est le rapport homme-plante. Et c'est en fait le centre de nos activités. C'est-à-dire qu'on est entouré par la nature. Et si on veut effectivement la préserver de façon intelligente, il faut être en relation avec elle. Et donc, l'humain, forcément, a un impact sur la nature, qu'il soit positif ou négatif, mais il a un impact. Donc, du coup, renouer ce contact avec la nature... Renouer ses connaissances sur la nature et recréer des liens avec elle et de voir de quelle façon on peut en profiter, parce qu'effectivement, on peut profiter de la nature et on peut s'en servir à plein de choses. Et bien, ça permet aussi de mieux la connaître et du coup, de mieux la préserver, je pense. Donc voilà, donc pour moi, on ne peut pas dissocier la plante, ce qu'elle est, et l'impact et l'utilisation que l'homme en fait.
On a un petit peu délégué à des grandes firmes, on parlait des entreprises semencières, à des grandes firmes pharmaceutiques qui d'ailleurs sont un peu copines souvent, qui ont des intérêts économiques assez proches et des dirigeants assez proches des firmes qui fabriquent les produits pharmaceutiques. On a un petit peu délégué ces questions de savoir à des spécialistes, à des grandes entreprises, mais vous essayez, donc à savoir de terroir, de rendre plus autonomes les citoyens en leur donnant les clés pour se soigner avec les plantes qu'ils peuvent cultiver dans leur petit jardin ou sur leur balcon de façon simple. Et ça, c'est des savoirs ancestraux qui ont été transmis depuis toujours. C'est les plantes qui nous soignent encore aujourd'hui dans les médicaments pharmaceutiques.
Ah oui, de toute façon, dans les médicaments, les molécules utilisées sont issues voilà, de plantes. Hein. Après, voilà, la médecine, avant d'être curative, elle commence par la médecine préventive, je dirais. Donc, moi, je sais pas, quand je commence à sentir un petit peu la gorge qui me gratte, etc., ben, une tisane de thym avec un peu de miel, et voilà, j'aurais pas forcément besoin d'aller chez le médecin et de me faire prescrire moult médicaments, quoi. Donc voilà, effectivement, de toute façon, avant que ces entreprises pharmaceutiques existent, parce qu'il y a une époque où elles n'existaient pas, on trouvait quand même le moyen de se soigner. Alors après, faut pas non plus tomber dans un extrême inverse. La médecine a aussi fait énormément de progrès. Notre espérance de vie a quand même augmenté. Donc voilà, il y a aussi des choses positives. Mais ça commence aussi par s'occuper de soi, de s'écouter soi, de sentir ce qui peut prendre forme, donc comme un mal de gorge par exemple, etc. Et simplement au quotidien d'y remédier avec, voilà, avec une, par exemple une infusion de plantes, des choses très très simples, hein, des plantes du thym, ça se cultive quand même assez facilement dans son jardin, voilà, du romarin, enfin voilà, il existe énormément de plantes médicinales. Le tout, c'est effectivement de connaître les vertus, de connaître aussi quand même un petit peu les contre-indications, parce qu'il peut y en avoir. Alors pas trop sur les infusions, mais après on entend beaucoup parler aujourd'hui des huiles essentielles, hein, qui est sur le principe de la distillation de plantes. Donc du coup, voilà, effectivement, les huiles essentielles, c'est, je dirais, un peu plus costaud, donc il y a des précautions à prendre. Mais voilà, on peut aussi, je dirais, se soigner au quotidien avec des choses relativement simples.
Alors, il n'y a pas que ça. On va finir sur vos outils de communication. Vous avez une maison d'édition spécialisée sur les plantes médicinales et une revue qui s'appelle La Belle Lurette, qui parle aussi notamment des vieux métiers, des vieux savoir-faire. Où est-ce qu'on peut trouver tout ça ?
Alors, effectivement, la revue La Belle Lurette, elle existe depuis la création de l'association. Et puis également, donc, des ouvrages. Alors, sur les plantes médicinales, oui, mais pas que. Hein. On a aussi, donc, sur les plantes à usage culinaire. Donc, au jour d'aujourd'hui, on a 8 ouvrages qui tournent autour des plantes. Ces ouvrages, ils sont disponibles dans toutes les bonnes librairies, voilà, qu'elles aient en stock ou pas. Parce que cet ouvrage peut être commandé aussi. On a un diffuseur-distributeur qui s'appelle Naturalier, qui fait son travail. Donc les libraires peuvent le contacter pour avoir ses ouvrages. Donc voilà, dans toute librairie, vous pouvez aller voir pour demander les ouvrages de savoir de terroir. Alors il faut juste savoir que ces ouvrages, ils nous permettent de financer en partie les actions de l'association. Donc on ne fait aucun profit, je dirais, personnel sur ce livre. Hein. La maison d'édition, c'est juste un outil pour nous, c'est pas une finalité. Donc ça nous sert vraiment à financer nos actions. J'en profite aussi pour parler d'un lancement d'un livre prochainement. Alors on a lancé un financement participatif sur le site Ulule pour un livre qui traite des plantes messicoles. Alors les plantes messicoles, c'est tout ce qui est, alors je vais utiliser un terme qui ne me plaît pas du tout, les mauvaises herbes, parce qu'il n'y a pas de mauvaises herbes, mais bon, c'est les mauvaises herbes des grandes cultures. Donc par exemple le coquelicot, hein, voilà, mais mine de rien, le coquelicot, on en voit de moins en moins. Et c'est assez effrayant, parce que le coquelicot, c'est une plante qui est très utile aussi. Donc voilà, donc si vous souhaitez soutenir l'association et acquérir cet ouvrage, vous pouvez aller sur le site de Savoir de Terroir ou sur l'U directement et contribuer à la réussite de l'édition de ce livre.
Eh bien, Arnaud, merci beaucoup.
Ben, merci beaucoup, Claire.
C'était L'Ours et la Carotte, écoutable sur Internet. Oui,